Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 24 octobre 2023. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seludia. Tout d'abord les titres. Au Nigeria, la Cour suprême examine un appel de l'opposition contre les résultats de la dernière présidentielle. Les États-Unis suspendent une bonne partie de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État du 30 août. Des morts et des disparus dans un nouveau naufrage en RDC. Le Hamas libère deux autres otages qu'il détenait à Gaza. Dangers et crimes à des niveaux records en Haïti, se alerte l'ONU. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La Cour suprême du Nigeria a entamé hier l'examen d'un appel déposé par le candidat de l'opposition Atiku Abubakar, arrivé deuxième au scrutin présidentiel de février. Il conteste la décision de justice qui avait annulé sa requête pour faire annuler l'élection. Nanit Talani.
Les 7 juges doivent se prononcer dans les semaines à venir sur cet appel à contester la victoire du président Bola Ahmed Tinubu. Après des mois de délibération, la Cour d'appel d'Abuja a rejeté le 6 septembre, comme sans fondement, les requêtes des partis d'opposition demandant l'annulation de la victoire de Tinubu avec des allégations de fraude et des irrégularités. Pour soutenir son recours, Atiku Abubakar, candidat du PDP, affirme que par le jugement délivré le 6 septembre, la justice a commis une grave erreur. Outre ses revendications initiales, le camp d'Atiku Abubakar a également cherché à présenter de nouvelles preuves montrant que M. Tinubu a présenté à la commission électorale un faux certificat de l'Université d'État de Chicago comme qualification lorsqu'il s'est porté candidat à la présidence.
Les États-Unis ont coupé lundi une bonne partie de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État militaire du 30 août dans ce pays, tout en continuant leur aide dans les domaines de l'humanitaire, de la santé et de l'éducation au profit du peuple gabonais. Ils indiquent cependant être prêts à reprendre l'intégralité de leur assistance en cas de progrès démocratique, selon un communiqué du Département d'État américain. Washington, qui avait déjà stoppé une partie de son aide étrangère fin septembre, a formellement déclaré qu'un coup d'État avait eu lieu au Gabon, ce qui implique, selon la loi américaine, de mettre un terme à toute aide non humanitaire. Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, un nouveau naufrage a fait dimanche des morts et des disparus sur un affluent du fleuve Congo. Naufrage qui intervient 8 jours après une catastrophe similaire et dont le bilan est d'au moins 47 morts. Le point avec Rosine Monezero.
Un représentant de la société civile a fait état de 40 morts et plusieurs dizaines de disparus dans ce nouvel accident. Il s'agit encore une fois d'une embarcation en bois appelée baleinière qui a chaviré en pleine nuit alors qu'elle transportait passagers et marchandises. Ce nouveau drame est survenu dans la nuit de samedi à dimanche au niveau du village de Boyeka sur la rivière Lulonga, à environ 140 km de Bandaka, a précisé Joseph Boyoko Lokondo, l'un des animateurs de l'organisation Génération Consciente. Dans la nuit du 13 au 14 octobre, une autre baleinière a fait naufrage sur le fleuve Congo à Bandaka. L'accident a fait au moins 47 morts et un nombre indéterminé de disparus. La surcharge a été la cause de cet accident, selon Marc Ekila, ministre des Transports, qui a rappelé que les embarcations en bois ne sont pas autorisées à naviguer la nuit. Après ce naufrage, le ministre des Transports avait promis des mesures drastiques, mais selon M. Boyoko Lokondo, rien ne se fait sur le terrain.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Le Hamas a libéré lundi 2 femmes enlevées et détenues dans la bande de Gaza depuis l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien sur le territoire israélien le 7 octobre, Mohamed Humfa.
Selon le bureau du premier ministre israélien, il s'agit de 2 israéliennes âgées respectivement de 85 et 79 ans. Leurs époux, tous 2 octogénaires, sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Le Hamas avait auparavant affirmé que les deux femmes avaient été libérées pour des raisons humanitaires pressantes grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. Cette libération intervient 3 jours après celle d'une Américaine et de sa fille, Judith et Nathalie Ranan. Environ 220 otages de tous âges, israéliens, étrangers ou binationaux, ont été recensés par Israël. Le président américain Joe Biden a exigé lundi soir la libération de tous les otages avant les discussions sur un cessez-le-feu au conflit entre Israël et le mouvement islamiste. Les otages doivent être libérés, ensuite on pourra discuter, a déclaré M. Biden.
Par ailleurs, les États-Unis ont prévenu hier que tout cessez-le-feu à Gaza décrété par Israël profiterait au Hamas au moment où les appels à une trêve humanitaire se font de plus en plus nombreux. Jacques Aristide.
Un cessez-le-feu donnerait au Hamas la possibilité de se reposer, de se rééquiper et de se préparer à continuer à lancer des attaques terroristes contre Israël, a déclaré hier le porte-parole du département d'État. Vous pouvez comprendre parfaitement pourquoi cette situation est intolérable pour Israël, comme elle le serait pour n'importe quel pays qui a subi une attaque aussi brutale et qui continue de voir la menace terroriste à sa frontière, a ajouté Matthew Miller avant d'indiquer que les États-Unis œuvrent séparément pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et que l'émissaire spécial américain David Satterfield y travaille intensivement. Pour sa part, la Maison-Blanche a accusé l'Iran de faciliter activement les attaques de bases militaires américaines au Moyen-Orient sur fond d'inquiétude liée à un potentiel élargissement du conflit. L'Iran continue à soutenir le Hamas et le Hezbollah et nous savons qu'il surveille de près ces événements et dans certains cas facilite activement ces attaques et ainsi d'autres qui veulent exploiter ce conflit pour leur propre intérêt ou celui de l'Iran, a affirmé John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain.
Selon les autorités israéliennes, plus de 1400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas depuis le 7 octobre, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l'attaque des combattants du mouvement islamiste palestinien mené à partir de Gaza. L'armée israélienne ajoute qu'environ 1500 combattants du Hamas ont été tués dans la contre-offensive ayant permis à Israël de reprendre le contrôle des zones attaquées. Et selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, plus de 5000 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans les bombardements incessants menés en représailles par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. En Haïti, la situation sécuritaire sur le terrain continue de se détériorer. La violence des gangs a plongé la vie des populations dans le chaos. C'est l'alerte lancée hier par l'ONU qui espère le déploiement d'une force internationale pendant qu'il est encore temps, Claire Morin-Gibourg.
La police haïtienne a signalé 1239 homicides entre le 1er juillet et le 30 septembre. Contre 577 au cours de la même période l'an dernier. Les enlèvements ont augmenté de 244%, a déclaré la représentante des Nations Unies en Haïti, Maria Isabel Salvador, devant le Conseil de sécurité. L'ONU s'inquiète aussi des meurtres perpétrés par des groupes d'autodéfense. 388 personnes ont ainsi été lynchées entre le 24 avril et le 30 septembre. En raison de leur appartenance présumée à des bandes. Selon un autre rapport, les groupes armés contrôlent 80% de la zone de Port-au-Prince ainsi que les routes menant à la capitale. Après un an de tergiversation, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert début octobre au déploiement d'une mission multinationale non onusienne menée par le Kenya pour aider la police haïtienne. Le Kenya et les autres pays qui doivent participer à cette force, dont les contours restent flous, n'ont avancé aucune date de déploiement.
Le sénateur démocrate américain Bob Menendez s'est de nouveau rendu au tribunal à Manhattan lundi où il a plaidé non coupable d'avoir agi comme agent du gouvernement égyptien dans une affaire plus large de corruption, a indiqué une source judiciaire. Poursuivi avec son épouse et 3 autres personnes, Robert Menendez avait déjà été inculpé de corruption et de trafic d'influence au profit de l'Égypte et avait déjà plaidé non coupable fin septembre, ce qui ouvre la voie à un procès dans cette affaire. La Minute Écho, Alexandrine Hollegno.
Le Nigeria a salué une victoire historique après avoir obtenu l'annulation d'une facture de 11 milliards de dollars de dommages et intérêts pour un projet gazier qui a échoué dans une affaire qui, selon un juge de la Haute Cour de Londres, illustre les ravages de la cupidité et de la corruption. Le président nigérian Bola Tinubu a décrit le jugement comme un coup porté à la malversation économique et à l'exploitation de l'Afrique. Des entreprises chinoises investiront 2 milliards de dollars dans la production des véhicules électriques et des drones. Selon un communiqué de la présidence nigériane cité par l'agence Ecofin, l'agence nigérienne pour les infrastructures scientifiques et techniques a signé des protocoles d'accord avec 3 entreprises chinoises portant sur l'implantation d'unités d'assemblage de véhicules, un transfert de technologie dans ces domaines pour un investissement global de 2 milliards de dollars. Terminons par l'Afrique du Sud qui a obtenu 676 millions de dollars de subventions de la part des pays riches pour financer son plan de transition énergétique, soit plus du double du montant promis initialement. Les autorités sud-africaines estiment le coût total de la transition énergétique dans le pays à 1 500 milliards de rand.
Merci Alexandrine. À présent, les sports avec Eric Manirakidza. Eric, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Ligue des champions, Arsenal en quête de rebond à Séville.
Battu à Lens 2-1 début octobre, le vice-champion d'Angleterre défie ce mardi le Séville FC de Sergio Ramos, déterminé à embêter un autre grand d'Europe lors de la 3e journée de Ligue des champions. Après son nul un but partout face au Real Madrid en Liga. Ce déplacement périlleux d'Arsenal au stade Sanchez-Pizjuan peut déjà être décisif pour les Gunners qui font leur retour en Champions League après 6 ans d'absence et visent la première place du groupe B, pour l'instant occupé par Lens avec 4 points. Les hommes de Mikel Arteta restaient sur un nul arraché sur la pelouse de leur rival de Chelsea 2-2 samedi. Sur le papier, Arsenal part favori face aux Sévillans, décevant 13e du championnat espagnol et qui viennent de licencier leur entraîneur José Luis Mendilibar. Mais les septuples vainqueurs de la Ligue Europa ont des ressources et l'habitude de se sublimer lors des soirées européennes, à l'image de la finale de la Supercoupe d'Europe, perdue face à City au tir au but en août dernier.
Football italien, DAZN reste le principal diffuseur.
La plateforme de streaming sportif diffusera les matchs du championnat d'Italie jusqu'en 2029 dans le cadre d'un accord global d'une valeur de 4,5 milliards d'euros, a annoncé lundi la Ligue italienne de football. Selon cet accord accepté par 17 des 20 clubs de l'élite au cours d'une assemblée générale de la Ligue, DAZN, qui est depuis 2001 le principal diffuseur de la Serie A en Italie, va débourser 700 millions d'euros par an entre 2024 et 2029.
NBA, LeBron James, King du 21e siècle, attaque sa 21e saison avec ambition.
Inusable, la superstar des Los Angeles Lakers, LeBron James, débute ce mardi à 38 ans sa 21e saison en NBA avec son physique d'airain et une motivation retrouvée après les problèmes de santé de son fils Bronny. James, parmi les plus grandes stars de l'histoire du basket USA, va bientôt continuer d'écrire sa légende avec une 6e saison dans la populaire franchise des Lakers qui chasse un 18e titre record pour passer devant les Boston Celtics. Au printemps, balayé en finale de Conférence Ouest par le futur champion d'Anvers, il avait émis pour la première fois des doutes sur la suite de sa carrière. Ses stats et sa longévité lui ont permis de devenir la saison dernière le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue. LeBron James est également 4e au classement des passes décisives, 9e aux interceptions, 10e au rebond défensif.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les embouteillages ont diminué sur les routes des différentes villes de la province du Nord Kivu à cause du manque de carburant suite à la grève des opérateurs économiques du secteur pétrolier. À Goma, chef-lieu de la province, les habitants se plaignent de la hausse du prix des transports, pendant que les transporteurs, eux, ont vu le prix du litre doubler chez les vendeurs détaillants. Reportage de notre correspondant à Goma, Zanem Neti Zaidi.
Pour quitter les quartiers Katindo, c'est rendre à son université, Jessica Essepo, une étudiante, a payé 5 000 francs congolais au lieu de 2 000 francs auparavant.
Nous avons vraiment ce grand problème de la hausse du prix de carburant. Il y a de ces revendeurs qui ne travaillent plus. Il y a aussi de ces stations qui sont en fermeture. Et du coup, on se retrouve face à un problème très sérieux parce que le prix du transport, c'est double et on a un problème de déplacement.
Bahati Chabiti est conducteur des taxis moto et subit les manques de carburant et la hausse du prix chez les petits vendeurs détaillants, une situation qui est très mal vécue par ses clients.
Nos clients n'acceptaient pas de payer cher, disant que les problèmes des carburants ne les concernaient pas. Nous payons un litre du carburant à 6 000 francs, un litre et demi se négocie entre 9 et 10 000 francs. Malgré cela, nous n'avons même pas où payer ces carburants. Nous ne savons pas quoi faire.
L'association des pétroliers du Nord Kivu, Apenoki, par l'entremise de son président Providence Muhiga dit avoir déclenché cette grève pour exiger au gouvernement une structure des prix adaptée à la réalité du marché.
Ça fait beaucoup de temps, plus de 3 mois ou 6 mois plus, que nous sommes en train de travailler à perte. Où nous demandons à ce qu'on puisse adapter la nouvelle structure à la réalité du marché. D'abord, le prix sur le marché international et puis sur le taux de change. Mais cela traîne à arriver. Quand vous travaillez et que vous n'êtes pas à mesure de renouveler votre stock, ça ne sert à rien.
Le gouvernement congolais s'est penché sur la question lors de son dernier conseil de ministres. Patrick Muyaya, ministre des Communications et porte-parole du gouvernement, se veut rassurant.
Cette pognon a également permis d'examiner la question du financement de manque à gagner prévu par le gouvernement en faveur des pétroliers. Le gouvernement de la République rassure toutes les parties prenantes et plus largement l'opinion publique nationale que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers.
Cette grève des pétroliers du Nord Kivu a été déclenchée en même temps que celle des pétroliers de la province du Haut-Katanga. Tard à la soirée, quelques stations ont commencé à rouvrir les pompes, mais les prix du carburant est toujours à la hausse. Zanem Neti Zaidi pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Recherche et innovation, le savoir-faire camerounais exposé à Yaoundé. C'était à l'occasion des journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Le fruit des recherches et de l'innovation à base de matériaux locaux dans les domaines de la santé, du génie civil, de l'agroalimentaire ont été présentés au public. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tap.
Stella Ananjou est une jeune boussière du programme de promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture numérique en Afrique centrale. Étudiante à l'Université de Yaoundé 1, elle a déjà à son actif des produits issus des recherches sur la résistance mécanique des bétons.
Nous avons constaté qu'avec des bétons ordinaires, qu'il y a souvent des pores. On a utilisé un nouveau type de béton où on a optimisé un peu pour question de limiter ces pores-là. Et en utilisant l'intelligence artificielle pour pouvoir réduire le travail des experts du domaine.
Christa Nduro, une autre boussière du même programme, a quant à elle mené des recherches qui ont abouti à la fabrication des pavés et carreaux à base de matériaux locaux.
Le ciment ordinaire qu'on appelle ciment Portland a une forte émission de CO2. On cherche ici une alternative au ciment Portland dont intervient notre ciment, le géopolymère, qui est fait à base de matériaux locaux, notamment l'argile, et d'une solution chimique.
Des jeunes innovateurs de l'intérieur du pays ont aussi exposé leur savoir-faire. Thérèse Ngoloum, une potière en céramique, est basée à Garoua, dans la région du Nord.
J'ai créé une association avec les femmes potières de la zone avec lesquelles on travaille pour échanger. Moi, j'apprends ce qu'elles font, leur façon de travailler, et elles apprennent de moi parce qu'elles ont seulement un seul style, le canari. Et moi, je leur apprends à faire d'autres formes et à bien travailler les poteries et aussi à sur la qualité du produit parce que elles, quand elles travaillent, en général, c'est pas bien cuit. Et moi, je leur apporte mon plus, quoi.
Des valeurs sûres de la recherche et de l'innovation du Cameroun ont également participé à la foire de Yaoundé. Parmi eux, Serge Armel Ndidjou, inventeur en 2018 de la couveuse néonatale. Il a présenté deux nouveaux produits.
On a fabriqué un purificateur d'air spécifique qui propose donc la désinfection gazeuse, qui est vraiment l'outil que je pense va être adapté pour désinfecter nos milieux, notamment les plus sensibles. L'autre produit, là, vraiment grand public, c'est le distributeur de boissons.
Le nœud gordien pour tous ces chercheurs demeure le financement de leur invention. Serge Armel Ndidjou, manager de l'Agence universelle pour l'innovation.
Ben, c'est terrible. Malgré qu'il y ait un discours politique de plus en plus offensif sur la question de la production locale, sur l'import de substitution, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Le premier effort à faire pour les innovateurs, c'est se priver. Le plus grand financeur, c'est le client.
Thérèse Goloum, potière de Gic Céramique à Garoua.
Ce qui m'a permis de m'installer, par exemple, c'est un financement des petites et moyennes entreprises. Donc j'ai eu le financement et puis je me suis installée. J'ai acheté la machine que vous voyez là, le tour. J'ai acheté, fait fabriquer un four traditionnel à bois par un de mes encadreurs de l'ami Promalo et puis avec ça, je m'en sors.
Depuis le 8 août dernier, le président de la République a doté le corps des chercheurs camerounais d'un statut spécial. Le texte permet désormais à certaines catégories de chercheurs de rester actifs jusqu'à 65 ans. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Nigeria, la Banque centrale a annoncé son intention d'intervenir sur le marché d'échange pour accroître la liquidité afin de lutter contre la dévaluation chronique de la monnaie locale, le Naira. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Magnesi, une petite et moyenne entreprise nigériane spécialisée dans la conception et la production de sacs et accessoires faits à la main avec une variété de tissus imprimés et de cuir. Au moins 80% de la plupart des matériaux utilisés pour la production de ces sacs sont importés. Avec le taux d'échange actuel du dollar, l'entreprise peine à joindre les dépôts. Niama Kambo Sisi, PDG de Magnesi Collections.
La situation n'est pas facile, et je vous le dis. Et je suis certain que toute autre personne qui est fabricant doit importer ses matériaux de l'extérieur du pays ressent la douleur. Nous achetons environ 80% de nos produits au Nigeria. Mais la plupart des produits, nous les achetons à l'étranger. Comment accéder à ces matériaux lorsque nous n'avons pas accès aux devises étrangères? On gagne de l'argent en Naira. Il faut le changer au marché noir pour avoir des devises étrangères.
L'écart de taux d'échange sur le marché parallèle est énorme par rapport au taux officiel de la Banque centrale. La plupart des importateurs nigériens et propriétaires de petites et moyennes entreprises n'ont pas accès au dollar au taux officiel. Cela a rendu la situation difficile pour les importateurs de marchandises et de matières premières. Ida James est vendeur dans le marché de Guarimpa à la périphérie d'Abuja.
À propos de ce taux de dollar qui augmente, et à mesure que le taux de dollar augmente, ça devient difficile. Et si vous voulez payer les frais de scolarité de vos enfants qui sont à l'extérieur du pays, vous ne pourrez pas payer. Et si vous voulez acheter des dollars, ils vous diront un taux différent. C'est pourquoi les prix des choses continuent d'augmenter.
Non loin de sa table se trouve la boutique de Hassan, importateur de riz.
Vraiment, vous voyez le problème. Au Nigeria, nous utilisons le Naira, mais nous parlons toujours des dollars. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. La plupart des marchandises qui viennent de l'extérieur sont importées avec des dollars. Donc chaque fois que nous avons un problème avec les dollars, cela affecte les Nigériens. Comme le riz et la plupart des choses que nous avons dans nos magasins, nous les achetons en dollars et chaque fois que nous avons ce genre de problème, cela affecte généralement au Nigeria.
La monnaie nigériane a chuté régulièrement par rapport au dollar américain entre 2015 et mars 2017 et a atteint aujourd'hui un niveau record à plus de 1000 naira pour un dollar. La Banque centrale veut intervenir sur le marché d'échange pour accroître la liquidité pour résoudre la crise de la dévaluation du naira. La réaction de l'économiste Issa Abdullahi.
Cela pourrait aider à stabiliser la situation pendant une période limitée, mais à long terme, si le gouvernement n'arrive pas à gérer la situation, ça va revenir à sa position normale ancienne. Donc, pour que nous puissions parier sur une stabilité, nous devons impliquer tout le monde dans le travail. Nos jeunes doivent trouver un emploi et nous devons soutenir notre propre économie en utilisant les ressources naturelles dont nous disposons.
Les startups nigérianes qui lèvent généralement des fonds en dollars et génèrent des revenus en naira sont aussi très touchées. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Liberté de la presse pour terminer. Au Burkina Faso, la 10e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse a refermé ses portes le week-end passé à Ouagadougou, une édition qui s'est penchée sur le rôle des médias dans un contexte d'insécurité. Au moins 200 journalistes venus de 33 pays ont participé à ce festival. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le Festival international de la liberté d'expression et de presse a réuni plusieurs centaines de professionnels. La majeure partie des discussions a tourné autour de la question: quelle liberté de presse dans un contexte d'insécurité et de transition? Idriss Ouédraogo, spécialiste en communication, enseignant et analyste politique.
Ce n'est pas la vérité brute qu'on transmet pour être un journaliste. Il y a un niveau de traitement. Dans le traitement, il y a des jugements en tant que tel. Pour moi, ça existe. Maintenant, on peut diverger ou ne pas diverger. Tiens, il y a les prix Galien. Qu'est-ce qui se passe? Tout sort peut-être d'une même école de journalisme. Les articles sont bons, mais parmi les articles, on classe certains au-dessus des autres. Pourquoi? Tous sont de bons articles. Mais seulement il y a une touche et une appréciation, il y a un angle d'appréciation de la même réalité qui fait qu'on trouve que si on est prêt à accepter qu'on encense un article, il faut aussi être prêt à accepter qu'on critique un article.
Arnaud Ouédraogo est le coordonnateur de la CENOZO, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest.
On veut bien se remettre en question, améliorer ce que nous faisons. Parce qu'au niveau des organisations professionnelles de médias, à commencer par la CENOZO, nous organisons beaucoup de formations à l'endroit des journalistes pour améliorer la qualité de leur travail. Nous donnons même des bourses pour soutenir les recherches pour qu'ils puissent documenter le maximum possible les recherches. Nous allons jusqu'à confier les productions des journalistes à des conseils juridiques pour qu'ils partent aux éventuels dérapages vis-à-vis des textes de loi.
Pour Emmanuel Ouédraogo, ministre de la Communication, il n'y a pas de liberté dans un pays qui n'est pas libre.
La première des libertés pour laquelle nous devons tous nous battre avec beaucoup d'engagement, c'est la liberté de notre pays. C'est ça la première liberté. Et quand je parle de liberté, c'est le simple droit à la vie. Parce que nous avons des concitoyens aujourd'hui qui n'ont même plus ce droit à la vie au quotidien, tout simplement parce qu'on a des hordes terroristes qui se plaisent au quotidien à tuer des civils. Et je pense qu'aujourd'hui, il est illusoire de penser qu'on puisse avoir une liberté qui puisse surnager dans un pays qui n'est pas libre.
Le Festival international de la liberté d'expression et de la presse dure maintenant depuis 23 ans. Le festival a recommandé aux États africains d'accompagner les organisations professionnelles dans la formation des journalistes sur l'éthique et la déontologie, la responsabilité sociale et le traitement de l'information en temps de crise. Aussi, le festival a condamné les atteintes à la liberté d'expression et de presse et a appelé les autorités à garantir les droits et devoirs des citoyens, y compris la liberté d'opinion, et à prendre les mesures de protection des journalistes et des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ok, Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, vous étiez en compagnie d'Idriss Assédouga, de Georges Léonard Sagnot et Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA.